Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous. En raison des changements climatiques, de nombreux bouleversements affectent maintenant toutes les régions du monde. Ces changements impactant pour partie l'environnement ont des conséquences directes ou indirectes sur la santé humaine. Face à des situations climatiques extrêmes qui ont lieu ou qui auront lieu fort probablement sur notre territoire au cours du XXIe siècle, il est constaté que les protections de la santé et de l'environnement convergeaient. Mais pourquoi ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Madame Alice Desbiol. Vous êtes le médecin référent santé-environnement au département prévention à l'Institut national du cancer. Bonjour Alice.
Bonjour.
Alice, pourquoi aujourd'hui faire converger la protection de la santé et la protection de l'environnement ?
Alors, tout simplement, je pense qu'on va le voir durant toute cette interview, mais notre santé dépend intimement de notre environnement et, comme on va le voir aussi, le fait de prendre soin de sa santé permet aussi de prendre soin de son environnement et vous connaissez sûrement les différents déterminants de la santé. Donc il y a des déterminants individuels, mais il y a aussi des, comme le fait de fumer, de boire, selon le métier que l'on va faire, le patrimoine génétique, les antécédents familiaux que l'on possède, notre âge, notre sexe, voilà. Mais il y a aussi des facteurs environnementaux qui conditionnent notre état de santé. Et donc c'est pourquoi l'environnement et la santé sont intimement liés.
Merci Alice pour ces informations. Pourriez-vous donner des exemples concrets d'impact sur la santé ?
Oui, bien sûr. Donc par exemple, la pollution atmosphérique, donc l'air que l'on respire, est un facteur de risque avéré de cancer du poumon. C'est aussi une exposition environnementale qui est responsable chaque année de 48 000 décès en France et de 1500 cas de cancer du poumon, par exemple. Vous avez aussi l'exposition au rayonnement ultraviolet qui est responsable d'environ 10 000 cas de mélanome chaque année en France. Les pesticides, hein, par exemple, notamment dans le cadre des expositions professionnelles chez les agriculteurs, et par exemple les lymphomes malins non hodgkiniens, qui sont des cancers du sang, sont reconnus comme des maladies professionnelles pour les agriculteurs qui peuvent justifier d'une exposition à des pesticides depuis plus de 10 ans. Et certains perturbateurs endocriniens que l'on retrouve dans les cosmétiques, dans les contenants alimentaires, que l'on retrouve dans certains médicaments, qui sont finalement quasiment omniprésents dans notre environnement. Donc ce sont les bisphénols, les phtalates, différents produits comme ceci, sont suspectés d'être potentiellement liés à certains facteurs de risque de cancer, comme par exemple la puberté précoce ou le syndrome de dysgénésie testiculaire. Et ce qui est très important de réaliser avec les expositions environnementales, c'est que ce sont souvent des expositions qui sont subies, qui ne vont pas être choisies par la population, qui sont passives et donc qui sont un véritable déterminant des inégalités environnementales et territoriales de santé. Et une grande fraction de la population est souvent exposée à ces facteurs environnementaux, comme la pollution atmosphérique, et ce, quel que soit l'âge des individus.
Vous avez évoqué des cancers chez des agriculteurs ou des métiers comme ça. Ça veut dire que vivre à la campagne, ça peut être dangereux ?
Alors, présenter comme ça, moi, je ne peux pas vous dire que vivre à la campagne, c'est dangereux. Non, ce n'est pas dangereux de vivre à la campagne. Ce n'est pas plus dangereux que de vivre à la ville. Par contre, effectivement, l'exposition aux pesticides qu'on retrouve aussi dans l'air à Paris, l'exposition aux pesticides est quand même très fortement présente sur l'ensemble du territoire. Des mesures de protection sont mises en place pour limiter l'épandage des pesticides et limiter l'utilisation de pesticides à proximité de zones ou d'établissements qui accueillent du public, comme les crèches, les écoles, afin de protéger la population de ces expositions.
Mais ça ressemble à un débat qui n'a pas eu très longtemps à la télé sur les distances où on pouvait commencer à faire des cultures et traiter les cultures.
Ouais,
effectivement. Bon, Alice, au regard des exemples que vous venez de nous donner, chacun de nous sait maintenant qu'environnement et santé sont indissociables. Mais d'après vous, comment en pratique faire converger les protections de la santé et de l'environnement ?
Alors, à différents niveaux, cela va être possible à différents niveaux. à l'échelle individuelle, à l'échelle des collectivités et à l'échelle de la société. À l'échelle individuelle, ce qui peut être finalement peut-être le plus facilement mobilisable, puisque cela ne va dépendre que de nous, cela consiste tout simplement à adopter des comportements plus favorables à la santé et qui sont souvent des comportements qui sont plus favorables pour l'environnement. Je m'explique, on parle souvent de maladies du mode de vie, comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires, voire le cancer. Finalement, donc si on change son mode de vie en adoptant un mode de vie plus respectueux de sa santé et donc de son environnement, voilà, ça permet de lier ces deux dimensions et donc ça consiste par exemple à limiter l'usage de la voiture pour lutter contre la sédentarité et l'inactivité physique, donc de remplacer les trajets courts par la marche à pied, par le vélo si on peut. Donc voilà, ça permet de faire un petit peu de sport et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre en évitant de prendre un véhicule, de revoir aussi la manière dont on va s'alimenter. De nouvelles recommandations alimentaires ont été publiées en début d'année dernière, qui sont disponibles sur le site mangerbouger.fr ou sur le site de Santé publique France. Et on y apprend qu'il est très important de manger un petit peu moins de protéines d'origine animale, de moins manger de viande notamment, peut-être pas plus de 2 fois par semaine aussi du poisson, de privilégier une alimentation d'origine plus végétale, si possible acheter auprès de producteurs en circuit court, de privilégier le fait maison, de privilégier si on peut les produits bio. Donc voilà, tout ça, ce sont des modes de consommation, des déplacements qui vont être beaucoup plus respectueux de la santé et de l'environnement. Et à l'échelle des collectivités, par exemple, donc là, ça va peut-être plus dépendre voilà, des mairies et de l'objectif, ça va être de proposer d'emblée des environnements qui vont être favorables à la santé de la population. Par exemple, on parlait de l'alimentation juste avant, ça va être de proposer par exemple des menus dans les cantines qui vont être plus respectueux de la santé et donc de l'environnement, en privilégiant plus de menus végétariens qui ne sont parfois que dans le meilleur des cas présents 1 fois par semaine. Ils pourraient être présents plus de fois dans le menu des crèches, des écoles, des collectivités territoriales. Pareil, de privilégier si possible les produits bio. Donc si on propose moins de viande et moins de poisson, qui coûte quand même en général plus cher que des produits d'origine végétale, on peut peut-être se permettre de prendre du bio, de privilégier les circuits courts et locaux auprès des agriculteurs du territoire, de limiter aussi les contenants jetables, donc pas de plastique par exemple dans les cantines, c'est d'ailleurs ce que propose la loi Egalim, donc de limiter les plastiques dans les cantines, ça permet de limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens des bébés, des enfants notamment. Et pour les UV, protéger les UV, ça peut être de proposer plus d'ombre, notamment dans les cours d'école par exemple, dans les crèches, dans les parcs, dans les stades, dans les rues, dans les arrêts de bus, pour proposer une ville et des établissements plus propices à la mobilité active et qui vont protéger donc du risque lié aux UV pour le cancer de la peau et qui vont également permettre de lutter contre les îlots de chaleur urbain, donc de recréer des îlots de fraîcheur du fait aussi de l'augmentation des températures que nous allons observer dans les prochaines années à venir. Et enfin, au niveau de la société, on peut aussi se proposer de réglementer peut-être un petit peu plus pour proposer d'emblée un environnement plus favorable à la santé de la population en général.
En tant que département de la prévention, vous intervenez aussi sur l'économie, en fait, pour prescrire, enfin, proposer ou suggérer de diminuer l'élevage, des choses comme ça. Est-ce que vous intervenez sur ça ou c'est que sur la santé?
Alors nous, on est une agence sanitaire, donc on va agir que sur la santé humaine. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en avant les recommandations nutritionnelles, notamment de Santé publique France, du ministère de la Santé, que l'on reprend aussi pour permettre la prévention des cancers. Donc on est complètement en phase avec ces recommandations qui conseillent de limiter quand même les produits laitiers, de limiter les produits d'origine animale. Et pour les collectivités, nous, on travaille actuellement à une synthèse sur l'urbanisme et la prévention des cancers, réfléchir à comment aménager le territoire pour proposer un air de meilleure qualité pour lutter contre les maladies liées à la pollution atmosphérique, pour proposer des villes qui vont être moins exposées aux UV, notamment pour prévenir le mélanome. Et on fait des propositions dans le cadre notamment de la stratégie décennale de lutte contre les cancers qui est en cours d'élaboration. Nous, on fait à ce stade des propositions réglementaires sur qui sont ce que dit l'OMS, des recommandations de l'OMS, sur par exemple le marketing alimentaire qui devrait être interdit à l'attention des enfants, puisque ça, on sait que c'est un facteur en partie responsable de l'obésité infantile, donc d'interdire la publicité pour le marketing alimentaire chez les enfants. Ça, ce sont des pistes d'action. Et de faire par exemple un plan, il y a un plan addiction, mais un fonds addiction, mais un plan aussi plus fort sur l'alcool, par exemple comme il a été fait pour le tabac. Et en fait, là, pour revenir à l'environnement, il y a un plan national santé environnement 4 et qui met un axe très fort, c'est son quatrième axe, qui est très fort sur les collectivités territoriales, avec notamment la mise en place d'une plateforme pour permettre aux collectivités territoriales de connaître les différentes initiatives qui fonctionnent pour les mettre en place dans leur collectivité si elles le souhaitent.
Effectivement. Donc la collectivité est acteur ou actrice plutôt dans ce domaine de prévention que, enfin, sur un périmètre assez limité. Elle a des activités au niveau scolaire dans la partie restauration. Elle peut en avoir dans certains cas pour son personnel. Après, c'est quand même assez limité comme le périmètre d'intervention des collectivités.
Alors pour moi, au contraire, il est extrêmement fort, il est majeur, il est souvent malheureusement sous-évalué. Alors, il y a quand même des collectivités qui s'engagent pour la santé environnement dans le cadre du réseau Ville Santé OMS, qui a bientôt, je crois, 100 ou plus, je ne sais plus, 100 communes en France, en tout cas. Au contraire, moi, je pense que le rôle des collectivités territoriales est fondamental, puisque c'est déjà énorme de façon passive de proposer pour la population, donc de façon passive, sans que les personnes ne s'en rendent compte, un environnement qui va être d'emblée favorable à la santé. Et ne serait-ce que voilà, de cibler dès la petite enfance, hein, ça c'est une période majeure hein, pour tout, qui va conditionner l'ensemble de l'état de santé à l'âge adulte. C'est vraiment une fenêtre d'opportunité majeure qui est entre les mains des collectivités, à travers les écoles, à travers les crèches, à travers les assistantes maternelles. Et ensuite, tout l'aménagement du territoire, et c'est quand même pas rien, le fait de mettre des pistes cyclables dans les communes, le fait d'élargir les trottoirs, le fait de végétaliser une ville, le fait de faire des espaces sans tabac, le fait de mener des actions de prévention, le fait de faciliter les circuits courts. Tout ça, voilà, c'est des choses qui ne sont pas forcément conduites de façon identique dans toutes les communes de France. Une région qui est très dynamique dans le domaine de la santé environnementale, c'est la Nouvelle-Aquitaine avec une ARS qui est extrêmement dynamique sur toutes ces questions. Et voilà, je pense qu'il y a quand même énormément de choses à faire dans les PMI aussi, hein, qui dépendent quand même des territoires. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire sur la santé environnementale pour former les professionnels et proposer d'emblée un environnement favorable à la santé, ne serait-ce qu'en bannissant le plastique des crèches, des écoles, en proposant des menus de meilleure qualité gustative, de meilleure qualité en termes de composition avec moins de contaminants, moins de pesticides, moins de résidus de métaux lourds. Voilà, tout ça, c'est entre les mains des collectivités. Souvent, malheureusement, c'est pas vraiment exploité à son juste niveau, à mon avis.
Oui, effectivement, là, vous avez une vision beaucoup plus large. J'avoue que la mienne était très étroite. Écoutez, Alice Desbioles, notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre témoignage et votre regard porté sur la question de la convergence de la protection de la santé et de la protection de l'environnement. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes médecin référent santé et environnement au département prévention à l'Institut national du cancer. Merci Alice.
Merci à vous.
Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.